VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 4 août 2022. Jean-Roger Villon à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations législatives au Sénégal, le camp présidentiel perd la majorité absolue. En RDC, la mission de l'ONU regrette la décision d'expulser son porte-parole. La Chine lance les plus importantes manœuvres de son histoire autour de Taïwan. Reprise aujourd'hui des discussions sur le nucléaire iranien. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Le camp présidentiel a perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale du Sénégal, mais reste en tête d'une très courte avance des élections législatives du 31 juillet, selon des résultats officiels provisoires de la Commission nationale de recensement des votes publiés aujourd'hui. On retrouve à Dakar notre correspondant Seydina Abagay.
Oui, la Cour d'appel de Dakar vient de prononcer les résultats provisoire, parce que c'est le premier président de cette cour qui préside la Commission nationale de recensement des votes. Et bon, les informations données confirment les tendances, parce que sur les 7 036 466 inscrits, plus de 3 200 000 personnes ont voté pour un taux de participation de 46,64%. Et la coalition au pouvoir arrive en tête sans majorité absolue, parce qu'il lui fallait avoir 83 députés pour avoir la majorité absolue. La coalition du président Macky Sall n'a pu en avoir que 82. La coalition Yewi Askanui, avec notamment Ousmane Sonko, a 56 sièges. La coalition Wallou Sénégal, avec le président Abdoulaye Wade à sa tête, a 24 sièges. Et la coalition Boku Giskis, la coalition Art Sénégal et la coalition Les Serviteurs ont chacun un député, ce qui fait 165 députés. Maintenant, comme durant la campagne, la coalition Yewu Askanui et la coalition Wallou Sénégal, c'est-à-dire Ousmane Sonko avec sa coalition et Abdoulaye Wade avec sa coalition, c'était uni. Ils ont à eux deux 80 députés et le parti au pouvoir avec sa coalition a 82 députés. Donc aucun des deux qui se menait une guerre des chiffres depuis le vote n'a la majorité absolue. Maintenant, il va falloir composer avec les trois autres coalitions qui ont chacun un député pour avoir la majorité absolue à l'Assemblée et espérer contrôler la présidence et le bureau de l'institution parlementaire du Sénégal.
Merci, Seydina Abagay. En Côte d'Ivoire, Pulcherick Balé, une figure de la société civile, a été interpellée hier soir à l'aéroport d'Abidjan où elle venait d'arriver de Bamako, Mali, puis transférée à la préfecture de police qu'elle a pu quitter ce jeudi en début d'après-midi. Pulcherick Balé, proche de l'opposition, avait déjà été incarcéré pendant 8 mois entre août 2020 et avril 2021 pour avoir manifesté contre la candidature du président Alassane Ouattara à un nouveau mandat. La junte militaire au Tchad a publié la liste des participants au dialogue de réconciliation nationale prévu le 20 août, selon un décret signé jeudi par le Premier ministre. 80% des participants sont des gens de l'ancien système du pouvoir, a dénoncé l'opposant Succès Masra, président du parti Les Transformateurs. Un groupe d'experts mandaté par les Nations Unies dit avoir rassemblé de solides preuves de la présence de troupes rwandaises aux côtés des rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Rwanda rejette les accusations du gouvernement de Kinshasa selon lesquelles il soutiendrait le M23 et aurait envoyé des troupes dans la région. Le M23 assure ne recevoir aucun soutien de Kigali. La MONUSCO, elle, regrette profondément la décision d'expulser son porte-parole, Mathias Gilman, de la République démocratique du Congo. La mission s'engage toutefois à continuer de travailler aux côtés de la population et des autorités congolaises. Jacques Aristide.
Le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a demandé mercredi à la MONUSCO de tout faire pour que Mathias Gilman quitte le territoire congolais dans le plus bref délai, invitant la mission à accorder le bénéfice de l'urgence à cette demande. Dans un communiqué publié hier, la mission onusienne ajoute prendre acte de la décision du gouvernement de demander à un membre de son personnel de quitter le pays. Toutefois, elle dit s'engager à continuer de travailler aux côtés côtés de la population et des autorités congolaises pour mettre en œuvre le mandat qui lui a été confié par le Conseil de sécurité. D'après une source gouvernementale, ce sont les propos tenus par Mathias Gilman sur une radio internationale, affirmant que la MONUSCO ne disposait pas de moyens militaires pour faire face aux M23 qui sont à la base de la tension actuelle. En une semaine, au moins 32 protestataires et 4 à casque bleu ont été tués dans des manifestations contre la MONUSCO dans l'Est congolais.
Le Soudan du Sud a annoncé aujourd'hui la prolongation de 2 ans de la période de transition censée s'achever en 2023 après des élections. Cet accord a débouché sur un partage du pouvoir au sein d'un gouvernement d'union nationale investi en février 2020 avec M. Ki au poste de président et M. Machar à celui de vice-président. Les représentants des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Norvège ont boycotté la réunion annonçant cette prolongation. L'écrivaine et cinéaste zimbabwéenne Tsitsi Dangarembga comparaîtra le 10 août devant un tribunal pour incitation à la violence publique après le rejet ce jeudi d'une demande d'acquittement formulée par ses avocats. L'écrivaine avait été arrêtée en juillet 2020 pour avoir manifesté à Harare en portant une banderole affirmant « Nous voulons mieux réformer nos institutions ». Elle avait été libérée sous caution le lendemain.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Reprise à Vienne des pourparlers sur le nucléaire iranien après des mois de blocage pour tenter de relancer le processus. Ces discussions difficiles se font sous l'égide de l'Union européenne. Abdou Ramandia.
C'est la première fois depuis mars que l'ensemble des partis, Iran, Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne, se retrouvent dans la capitale autrichienne pour sauver l'accord de 2015, au point mort depuis le retrait de Washington en 2018. Les États-Unis participent de manière indirecte à ces négociations qui ont débuté en avril 2021, l'Union européenne jouant l'intermédiaire. En ce premier jour, les rencontres bilatérales se sont succédées sous l'égide du coordonnateur de l'Union européenne, Enrique Mora. Il a reçu dans la matinée l'ambassadeur russe Mikhail Olyanov, puis le représentant chinois Wang Kun et enfin le négociateur iranien Ali Bagheri. Ce dernier avait appelé mercredi les États-Unis à saisir cette occasion pour, dit-il, agir de manière responsable. Une rencontre séparée a également eu lieu entre Iraniens et Russes, traditionnellement proches dans les discussions. L'émissaire de Washington, Robert Malley, a, dans un message avant son arrivée à Vienne, tempéré l'enthousiasme. Nos attentes sont mesurées, mais les États-Unis sont prêts de bonne foi à tenter de trouver un accord, a-t-il écrit sur Twitter. On sera vite fixé pour savoir si l'Iran est prêt à la même chose, a-t-il écrit.
La Chine a lancé ce jeudi des exercices militaires d'une ampleur inédite autour de Taïwan. C'est en réponse à la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, qui a séjourné sur l'île malgré les menaces de Pékin. Mouamadou Mfa.
Les manœuvres qui ont débuté ce jeudi incluent des tirs de missiles conventionnels au large de la côte est de Taïwan, a indiqué Shi Yi, un porte-parole des forces militaires chinoises. Tous les missiles ont atteint leur cible avec précision, testant les capacités de frappe et de déni d'accès à la zone, a-t-il souligné dans un communiqué. Condamnant des actions irrationnelles qui minent la paix régionale, le ministère taïwanais de la Défense a confirmé que l'armée chinoise a tiré 11 missiles balistiques de type Dongfeng au nord, au sud et à l'est de Taïwan. Il n'a pas précisé si ces missiles ont survolé ou non l'île. Pour Pékin, ces manœuvres ainsi que d'autres mesures plus limitées sont nécessaires et légitimes. Après la visite de Mme Pelosi, ces exercices doivent s'achever dimanche.
La présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, est arrivée aujourd'hui au Japon, dernière étape de sa tournée asiatique, qui a inclus une rare visite à Taïwan, ayant donc provoqué la colère de la Chine. Mme Pelosi, 82 ans, dont c'est la première visite au Japon depuis 2015, doit notamment s'entretenir demain vendredi avec le premier ministre nippon Fumio Kishida. Le ministre américain de la Justice a annoncé aujourd'hui des poursuites fédérales contre 4 policiers impliqués dans la mort de l'afro-américaine Breonna Taylor, abattue dans son appartement de Louisville en 2020 et devenue une icône du mouvement Black Lives Matter. La justice locale n'avait inculpé qu'un seul des agents impliqués dans le drame, non pas pour la mort de la jeune femme, mais pour avoir mis en danger son voisin. Son acquittement en mars avait été perçu comme un déni de justice, par les militants antiracistes. Et puis l'unique centrale électrique de Gaza risque de fermer en raison d'un manque de carburant, a mis en garde aujourd'hui son directeur au troisième jour du bouclage complet de l'enclave palestinienne par Israël. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
La République démocratique du Congo a signé un contrat avec la société luxembourgeoise iProcid pour la sécurisation du cadastre et la digitalisation des procédures foncières. L'accord prévoit la construction d'une tour du foncier qui hébergera d'ici 2 ans tous les services du ministère des Affaires foncières. Le projet s'inscrit dans le cadre du plan national du numérique Horizon 2025. En Côte d'Ivoire, le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, a annoncé hier en Conseil des ministres que le pays a décaissé plus de 16 millions de dollars au premier semestre pour relancer l'économie fragilisée par les effets de la Covid-19. 7 grandes entreprises, 30 PME, 1700 acteurs du secteur informel et 100 800 ménages ont été soutenus financièrement. Et au Togo, le gouvernement a annoncé hier la création d'un comité de régulation de l'assurance maladie universelle. Le Conseil des ministres a défini la mission de ce comité à travers l'examen d'un projet de décret. La mesure répond au premier axe de la feuille de route 2020-2025 relatif au renforcement de l'inclusion sociale.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean Rouget, bonsoir à tous.
Brittany Griner condamnée à 9 ans de prison.
Oui, le tribunal de Khimki, près de Moscou, a reconnu la star américaine du basket féminin coupable de possession et de trafic de drogue. Elle a écopé de 9 ans de détention dans une colonie pénitentiaire. Selon la juge Anna Sotnikova, c'est inacceptable et je demande à la Russie de la libérer immédiatement afin qu'elle puisse retrouver ses proches et ses coéquipières, a réagi le président Joe Biden dans un communiqué. Brittany Griner a été arrêtée en février avec du liquide de vapoteuse à base de cannabis en arrivant à Moscou. La double championne olympique dit avoir apporté cette substance en Russie par erreur et refute tout trafic de stupéfiants.
Khalidou Koulibaly répond au président de Naples.
Le club italien dit ne plus vouloir embaucher de nouveaux joueurs africains, sauf s'ils s'engagent à ne pas disputer la Coupe d'Afrique des Nations, compétition généralement organisée en cours de saison. C'est ce qu'a fait savoir le président du Napoli, Auriello De Laurentiis. Le capitaine du Sénégal, Khalidou Koulibaly, a déclaré que les nations africaines méritent plus de respect, insistant que personne ne peut l'empêcher de jouer au football pour son pays.
As captain of Senegal, I think that...
En tant que capitaine du Sénégal, je pense que ce n'est pas la bonne façon de parler d'une équipe nationale africaine. Mais je respecte ce qu'ils pensent. S'ils pensent que l'équipe peut jouer sans des joueurs africains, c'est son point de vue. Mais je pense que tout le monde n'a pas la même idée que lui dans le club, parce que je connais tout le monde là-bas et je connais les supporters. Et les supporters ne pensent pas ainsi.
Khalidou Koulibaly, défenseur de Chelsea et capitaine du Sénégal.
Le hors-jeu semi-automatique utilisé en Super Coupe d'Europe et en Ligue des Champions.
Oui, l'UEFA a annoncé hier mercredi que cet outil destiné à accélérer et fiabiliser les décisions arbitrales serait utilisé lors de la Supercoupe d'Europe le 10 août prochain et lors de la prochaine phase de groupe de la Ligue des Champions. L'UEFA emboîte ainsi le pas à la FIFA qui avait décidé début juillet de mettre en pratique cette technologie lors du Mondial au Qatar. Le hors-jeu semi-automatique permet d'établir à tout moment la position des joueurs et du ballon sans toutefois remplacer l'appréciation des arbitres.
Page des sports VO Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama, 19h TIM. Pour participer, c'est très simple. Laissez vos commentaires ou numéro de téléphone sur notre page Facebook. Alors, à très vite sur le terrain de VOA Afrique.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les Kenyans se rendent aux urnes mardi prochain pour des élections présidentielles, législatives et locales. Candidat pour la cinquième fois à la présidence du Kenya, Raila Odinga a incarné durant des décennies l'opposition avant de se rapprocher ces dernières années du pouvoir. Face à lui, l'ambitieux et fortuné vice-président William Ruto, qui se pose en porte-parole du petit peuple. Portrait croisé des deux candidats majeurs à la présidentielle kenyane avec Eric Manirakiza.
Raila Amolo Odinga, 77 ans, est une figure historique de la politique kenyane. Il est engagé dès le début des années 80 contre le régime de parti unique. Il connaît la détention et un bref exil en Norvège avant d'entrer au Parlement lors des premières élections multipartites de 1992. C'est lors des scrutins présidentiels de 1997, 2007, 2013 et 2017 que ce leader de la communauté Luo s'impose comme un acteur politique incontournable, toujours candidat opposé au pouvoir. Premier ministre entre 2008 et 2013, M. Odinga est un des artisans de la Constitution de 2010, considéré comme une des plus progressistes du continent. La présidentielle du 9 août constitue probablement la dernière chance d'entrer au palais présidentiel. Il promet de se concentrer sur le coût de la vie.
Les prix des produits de base essentiels sont montés en flèche et les prix des céréales et des engrais ont augmenté. Le prix du carburant a également augmenté, ce qui a un effet révélateur sur le coût de la vie de notre population. Donc, nous avons aussi d'autres crises sur les questions de la dette que nous devons aussi affronter. Mais nous sommes confiants que nous pouvons survivre, tout comme d'autres pays survivent aussi à ces crises.
Raila Odinga est un passionné de football et fervent supporter du club d'Arsenal. Il est aussi fan de reggae. Il fait sienne la chanson de Lucky Dube, Nobody Can Stop Reggae. Nobody Can Stop Reggae. Personne ne peut arrêter le reggae. Son père, Jaramogi Oginga Odinga, était le grand perdant de la lutte pour le pouvoir après l'indépendance du Kenya en 1963 au profit du premier président Jomo Kenyatta, père d'Uhuru. Son rival, William Ruto, 55 ans, se présente en challenger du pouvoir. Il s'oppose en porte-parole des débrouillards du petit peuple, de la rue comme lui, issu d'une famille modeste de la vallée du Rift. Il est le vice-président depuis 2013. Il a été un des plus virulents opposants à un projet de révision constitutionnelle défendu par le duo Kenyatta-Odinga, et finalement invalidé par la Cour suprême. Diplômé en sciences politiques et professeur avant de se lancer en politique dans les années 1990, au sein des jeunes du parti de Daniel Arap Moi, Ruto aime à rappeler qu'il n'a eu sa première paire de chaussures à l'âge de 15 ans et qu'il vendait des poulets en bord de route. Il est aujourd'hui à la tête d'une grande entreprise de volaille, un des piliers de sa fortune, une des plus grandes du pays, qui comprendrait également des hôtels, des milliers d'hectares de terre. William Ruto, toujours élégant dans ses costumes, prône une économie du bas vers le haut afin de sortir des millions de personnes du désespoir.
We will put the bricks.
Nous allons mettre un frein à l'augmentation des emprunts. Nous n'arriverons peut-être pas à zéro, mais nous commencerons à ralentir les emprunts parce qu'on dit que quand on se trouve dans un trou, il faut arrêter de creuser. Mais cette plateforme économique inclut les ressources publiques, ce qui signifie que nous devons nous attaquer frontalement à la corruption, non? Et en fait, dans cette élection, nous sommes probablement la seule équipe qui a un plan sur la façon de lutter contre la corruption.
Est considéré comme un des stratèges les plus efficaces de la politique kenyane. Chrétien born again, revendiqué et père de 6 enfants, il s'affiche un homme affable. Sa rhétorique des débrouillards, misant sur un clivage social plus qu'ethnique, trouve un certain écho chez les jeunes.
Au Tchad, le comité d'organisation du dialogue national inclusif a rendu public le quota des participations à cette grand-messe politique prévue le 20 août. Pour les acteurs politiques, l'organe chargé d'organiser cette rencontre a fait la part belle à l'ancien parti au pouvoir. André Kotbajinga, correspondant de VOA Afrique, a recueilli les réactions de certains politiques à N'Djamena.
C'est un ballon d'essai qui est jeté par le Cotonou depuis 72. Je crois que ce ballon d'essai, il est de mauvais goût. Je ne pense pas qu'il puisse atterrir. Soit il s'écale en l'air, soit il s'explose.
Max Kamkoui, président de l'Union des démocrates pour le développement et le progrès. Pour lui, ce ballon d'essai est l'illustration de la volonté affichée du président du Conseil militaire de transition de contrôler tout le processus.
On ne part pas à un dialogue pour les questions de politique publique. On part à un dialogue pour discuter des questions d'équité. Quand il n'y a pas d'équité, il n'y a pas d'inclusivité dans l'organisation du dialogue. Sur les 1412, le CMT, ses alliés, les ex-partis de la majorité, à eux seuls, seront représentés par 1354 voix, dont il n'y a que 58 qui ne sont pas des mêmes opinions politiques que eux. C'est quel dialogue qu'on organise ?
Balom Nyoboy-Dendjira, qui porte-parole de l'Alliance 43, un regroupement des partis politiques alliés à l'ancien régime des membres du Cotonou, se réjouit du fait que tous les 227 partis politiques légalement reconnus sont pris en compte dans ce quota et demande à ceux qui gesticulent par rapport au quota accordé au MPS de garder leur calme.
Il y a un critère qui donne une place supplémentaire à des partis qui avaient des députés les trois dernières élections législatives. Une seconde place supplémentaire à ceux qui ont des élus locaux. À partir de là, peut-être que les gens s'inquiètent, mais sinon le MPS en tant que parti politique, quand le critère est désigné, le MPS a une place comme les 226 partis politiques. Donc accuser le MPS, c'est une fuite en avant. Pourquoi être trop pessimiste?
Pour Max Kamkoui du parti Union des démocrates pour le développement et le progrès, il ne sert à rien d'aller à ce dialogue qui vise simplement à légitimer la transition qui va sortir de ses assises.
Il n'y a rien à attendre de ce dialogue, sauf la légitimation de la transition pour que Mohamed Idriss Déby il ne soit non pas seulement président de la transition qui va s'ouvrir après octobre, mais encore qu'il puisse se présenter aux prochaines élections post-transition. Donc pour nous, c'est sans enjeu. J'invite les Tchadiens à prendre conscience. Mohamed Idriss Déby veut jouer à la fois à l'intelligent et à la fois au cynique. Mais son cynisme, il va l'avaler.
Dibidi Boukar Diban, président du parti démocrate et socialiste, déplore lui aussi le quota accordé au MPS, mais estime qu'il ne faut pas faire la politique de la chaise vide.
Il ne faut pas chercher à boycotter, comme beaucoup de gens pensent. Non, 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 nous sommes la force de l'argument. On va au dialogue, c'est parce qu'il y a problème. Mais si le MPS vient avec 1200, est-ce que c'est pour réaliser un consensus? C'est pour, n'est-ce pas, faire passer au forceps, n'est-ce pas, des accords? Oui.
André Kodumadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
La Côte d'Ivoire vient de lancer l'opération Zéro Enfant dans la rue. Cette opération a permis en une seule nuit de retirer plus de 200 enfants qui avaient élu domicile dans les rues des différents quartiers de la capitale économique. Le reportage de Delphine Bouise, notre correspondante à Abidjan.
Plusieurs enfants pour diverses raisons vivent dans la rue. Ce phénomène qui prend de l'ampleur est une préoccupation pour le gouvernement ivoirien. 4 sites identifiés ont été notamment visités par la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et son équipe. En une seule nuit, plus de 200 enfants ont été sortis de la rue. Première étape de cette visite peu ordinaire, à Cocody-Ancré, deux sites servant de marché des quartiers des enfants dorment à même le sol, sur des tables ou sur des cartons. Ils sont réveillés dans leur sommeil par les équipes du ministère. Aboulaye Sidibé, commerçant dont l'espace est squatté par les enfants, réagit à l'opération Zéro Enfant dans la rue en s'adressant à la ministre.
Vraiment, je vous encourage, je n'ai pas les moyens, mais ce n'est que ma parole, vraiment, vous soutenir.
Réponse de la ministre Nassine Batouré.
On voudrait que vous soyez nos partenaires pour que nous puissions récupérer ces enfants, savoir quel est leur problème, voir ce qu'on peut remettre dans leur famille, d'autres qui sont 14 ans, 15 ans, les former et puis les réinsérer dans la société.
La deuxième escale est à Makouri, où des dizaines d'enfants, dont les petites filles, le soir venu, dorment sur le balcon d'une pharmacie. Le quart de ramassage s'arrête pour les prendre. On peut lire sur les visages les hésitations, la crainte et la peur. Ils sont vite rassurés par leur hôte du jour, la ministre Nassene Batouré.
Le problème psychologique qu'ils ont eu au départ de la famille n'a pas été traité. C'est un état d'esprit qui s'installe et il n'y a plus de confiance. Donc aujourd'hui, il y a un gros travail à faire pour éradiquer ce fléau de notre pays.
La visite médicale suivie d'entretien marque le début de la prise en charge psychologique, sociale et professionnelle de ces enfants. Dans le centre d'éducation spécialisé de Makouri, la ministre essaie de rassurer ses nouveaux pensionnaires quant à l'amélioration de leur situation.
Vous allez voir qu'on va trouver des bonnes solutions définitivement et dans quelques mois, quand les gens vont vous voir, ils ne vont pas vous reconnaître.
Après deux jours de prise de contact, place aux séances d'écoute et d'identification des éducateurs spécialisés avec les enfants sous le sceau de la confidentialité. Ces enfants qui ont élu domicile dans la rue il y a 2 ans pour certains, voire 3 ans pour d'autres, réagissent.
Je suis content d'être ici. Il y a tout.
Cette opération éclatée dans plusieurs communes d'Abidjan est pilotée par le programme de protection des enfants et adolescents vulnérables, une structure du ministère et la campagne sur son cours. Delphine Bouise, Abidjan, VOA, Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
La Guinée reste le pays organisateur de la CAN 2025, c'est ce qu'a réaffirmé le ministre guinéen des Sports, Lansana Béa Diallo. Fin juillet, le président de la Fédération nigériane de football, Amadou Pinnick, avait affirmé que son pays va être candidat avec le Bénin à une co-organisation de la CAN 2025. Il avait sous-entendu un retrait de l'organisation de la compétition à la Guinée. Yacouba Ouedraogo a joint à Conakry le ministre guinéen des Sports, Lansana Béa Diallo.
La Guinée aujourd'hui, au-delà même des différentes sorties, est plus qu'en avance sur ce qu'on est en train de dire aujourd'hui et que la détermination d'organisation de cet événement est beaucoup plus présente aujourd'hui qu'elle ne l'était encore hier. En 8 mois, nous avons réussi à faire des avancées qui sont énormes. On est effectivement dans la phase aujourd'hui où les entreprises ont terminé les études et on va arriver dans la phase effectivement de l'effectivité de la construction des infrastructures.
La CAN 2025, c'est très bientôt, hein, dans 2 ans et demi pratiquement. Vous parlez de phase d'études terminée, c'est quand même 6 stades, hein, parce qu'il y a désormais 24 équipes pour cette CAN-là. Est-ce que vous pensez qu'en 2025, vous serez vraiment prêts?
Oui, nous serons plus que prêts parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises d'ailleurs qui ont été choisies, ce sont des entreprises qui sont déjà certifiées CAF, certifiées FIFA, qui ont déjà construit plusieurs stades dans le monde et le délai de construction aujourd'hui dans les conventions que nous avons mis en place sont de 18 mois. Au-delà de ces 18 mois de construction, vous devez savoir aussi que les modèles de stades que nous avons choisis en Guinée sont complètement différents de beaucoup de pays. Nous avons fait des choix de construire des stades de 15 000 places et de 20 000 places pour pouvoir être justement dans une réalité et de ne pas se retrouver avec des stades demain fantômes où on n'a pas la capacité de l'entretenir, où on n'a pas la capacité d'en faire des enjeux où on peut les remplir. On a choisi 2 stades, un de 50 000 places qui existe déjà et un de 40 000 places qu'on va construire à Conakry. Et qui sont en plus, au-delà du choix qui est fait, sont des stades aussi qui sont des stades amovibles. Donc ça veut dire que nos orientations stratégiques qu'on a mises en place, si on estime que les 20 000 places ne peuvent pas être optimales dans les différentes villes, on pourra les bouger et les mettre dans d'autres villes pour construire encore d'autres stades.
La déclaration vient quand même d'Amadou Pinnick, qui est quand même membre du comité exécutif de la CAF. Est-ce que vous ne vous dites pas, ils en ont sans doute parlé et c'est peut-être lui qui est allé vite sans besoin?
Non, du moins je pense que la stratégie de beaucoup de pays aujourd'hui, c'est d'organiser cet événement. Et cet événement est un événement extraordinaire pour le développement d'un pays d'une manière plus générale. Aujourd'hui, on a quitté depuis 50 ans, on n'a pas organisé cet événement. Pour nous, c'est une opportunité extraordinaire, non seulement de construire des infrastructures sportives, mais aussi de mettre des hôpitaux dans les 4 régions qui vont être des hôpitaux mis aux normes. Ça va nous permettre de reconstruire et de redynamiser nos aéroports, de relancer une compagnie nationale, de construire des hôtels. Donc on est est vraiment dans cette dynamique-là et aujourd'hui, tous les projets qui étaient dormants, la réorientation du budget national a été mise en place pour dire que la CAN 2025 était une priorité.
La Guinée est actuellement dans une phase de transition sur le plan politique. Vous ne pensez pas que ça va jouer sur l'organisation de cette CAN-là? Parce qu'il y a quand même des remous à l'interne.
La Guinée et les pays entiers sont toujours en remous, il y a toujours des mouvements. Et ce n'est peut-être pas nous qui allons organiser cet événement, mais en tout cas, on va mettre toutes les bases pour que ça puisse être effectivement effectif pour 2025.
C'était le ministre guinéen des Sports, Lansana Béa Diallo. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Georges Léonard Sagno. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.